On vient de chanter un chant qui dit que nous voulons vivre pour le Seigneur, fondé sur sa vérité. Et nous savons que c'est la Bible qui est la vérité. Et nous pouvons nous fonder sur elle. Et je voudrais prier pour que, par la méditation de sa parole, la vérité, nous puissions avoir une vie transformée. Prions, prions ensemble avant la méditation de la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous pouvons nous appuyer dessus dans tous les domaines de notre existence. Notre prière ce matin, c'est que par ton esprit puissant, tu puisses nous transformer de l'intérieur à l'écoute de ta parole, pour que nos vies puissent porter du fruit à ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il y a une douzaine d'années, je travaillais en région parisienne et tous les matins, je prenais le RER B à Châtelet-Les-Halles. Pour ceux qui connaissent la station, c'est une grande station de métro. Et comme tous les matins, le quai était bondé. Et ce matin-là, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai entendu une petite clochette résonner exactement comme celle-là. Ça m'a fait un peu drôle d'entendre ça dans le métro, dans le RER. Et c'était une dame qui sonnait de cette clochette. Et quand elle est passée à côté de moi, j'ai entendu ce qu'elle disait. Et elle disait ça. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous imaginez le succès qu'elle avait, cette dame, dans le RER à 8h du matin, quand elle prononçait ces paroles. Je me souviens qu'il y avait plusieurs types de réactions. La réaction principale, c'était l'indifférence. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro à 8h du matin quand tout le monde va au travail. Tout le monde est sur son téléphone portable ou tout le monde a les journaux gratuits là en train de lire. Et la plupart des gens ont à peine écouté ce qu'elle disait et se sont immédiatement replongés dans ce qu'ils avaient à lire. J'ai noté un brin d'agacement chez certains aussi. Dans le genre, mais qu'est-ce que c'est que cette folle, quoi ? Mais faites la terre, vraiment. On sentait chez certains une espèce de... Ça leur faisait dégager une espèce de violence en eux d'entendre ces paroles-là. Et puis aussi, chez d'autres, j'ai vu quelques ricanements sur les lèvres, un peu du genre, où est la caméra cachée ? Est-ce que c'est surprise ou quoi, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est à peu près les trois types de réactions que j'ai vues ce matin-là, quand cette dame est passée sur le quai du RER B, qui est bondé à 8h du matin. Et de mon côté, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça ? De mon côté, je vous avoue que malheureusement, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que j'admirais le courage de cette dame qui osait parler de Dieu en public, qui osait parler de sa foi en public. Mais en même temps, je me demandais si la manière avec laquelle elle s'y prenait, je me demandais si c'était vraiment pertinent dans la société dans laquelle nous vivions. C'est la question que je me suis posée quand j'ai entendu cette femme. Et pourtant, et c'est là que ça se complique, et pourtant, elle utilisait les mêmes paroles que Jésus, cette dame. On va le voir ensemble. La semaine dernière, on a commencé notre lecture dans l'évangile de Marc. Marc nous a présenté Jésus pour qu'on sache qui il est. On avait découvert ensemble qu'il était Dieu devenu homme et qu'il était le libérateur promis par Dieu. Et aujourd'hui, on va voir ses premières actions. On va l'entendre parler pour la première fois. C'est ce à quoi nous allons assister maintenant, et c'est Sylvie qui va lire pour nous ce matin la suite de l'évangile de Marc.
Chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent.
Merci Sylvie. Donc on vient de le constater, on vient de l'entendre. Les paroles de cette femme dans le RERB, c'était les mêmes paroles que Jésus a prononcées lui-même. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais je dirais qu'il y a une différence de taille entre Jésus et cette femme. Une différence de taille en dehors du fait que Jésus est Dieu devenu homme, bien entendu. Cette différence, c'est qu'à l'époque de Jésus, les Juifs, ils attendaient. Ils attendaient que le royaume de Dieu arrive. Ils étaient prévenus et ils l'attendaient. Mais de nos jours, qui attend le royaume de Dieu ? Est-ce qu'on n'est pas dans une société où le seul règne qu'on attend, c'est le règne des loisirs ? Et pour le coup, le règne de Dieu... Voilà pourquoi on a besoin de bosser, on a besoin de travailler ensemble pour comprendre ce que Jésus a bien voulu dire par ces paroles-là il y a 2000 ans. Et ce matin, grâce à ce récit, on va pouvoir répondre à ces deux questions-là. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Et qui peut y entrer ? Ce sont les deux questions auxquelles on va pouvoir répondre en reparcourant les paroles de Jésus et en essayant de les comprendre. On va commencer par la première. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Eh bien, dans la Bible, le royaume de Dieu, c'est le lieu où Dieu règne comme un roi. C'est un royaume où règne la justice, la paix et la joie. Alors, présenté comme ça, un royaume de perfection avec justice, paix et joie, eh bien, on se rend compte que c'est vachement éloigné de ce qu'on vit tous les jours. Et nous, dans notre monde... Eh bien, la justice, elle ne règne pas de façon parfaite. La joie et la paix, on ne la connaît que de façon très imparfaite. Alors on peut se demander, mais est-ce qu'il existe vraiment ce royaume de perfection ? Jésus a pourtant dit, le moment est arrivé. Les temps sont accomplis, le moment est arrivé au moment où il parle. Le royaume de Dieu est proche. Le problème que nous avons tous avec le royaume de Dieu, c'est qu'il nous est inaccessible à cause du mal qui est au plus profond de nous-mêmes. Ce mal qui constitue comme une sorte de fossé infranchissable entre nous et le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est une image assez classique pour parler du royaume de Dieu. Mais Jésus, il a une solution pour nous. Il a une solution pour nous. Il nous dit « Repentez-vous ». Et croyez à la bonne nouvelle. Alors, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir ? Se repentir, ça veut dire changer d'attitude. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de changer d'attitude ? Eh bien, parce qu'un jour, on va tous passer en jugement. Au dernier jour, lorsque Dieu l'aura décidé, on va tous y passer. Et lequel d'entre nous pourra rester debout face au jugement de Dieu ? Qui pourra... affirmer devant Dieu qu'il n'a jamais rien fait de mal, ou pensé de mal, ou dit de mal. Vous savez, parfois, on devrait se taire, mais on parle. Et parfois, c'est quoi le contraire déjà ? Merci. Le mal apparaît dans les petites choses de l'existence. Le mal, c'est pas juste « je n'ai jamais tué personne », non. C'est aussi le mensonge, l'orgueil, la jalousie, la colère, toutes ces petites choses qui nous feraient honte aussi si elles étaient exposées sur la place publique. Et puis, on a tous besoin de demander pardon à Dieu, de se repentir, de changer d'attitude, parce que nous nous sommes tous détournés de lui. Nous ne tenons pas compte de lui, pas en permanence en tout cas. On est souvent les chefs de notre vie, de notre petite vie égoïste, et on ne tient pas compte de la vie de Dieu. Et ça, pour les parents, si vous êtes parents, c'est exactement comme quand vous sentez que votre enfant va vous désobéir, vous lui dites quelque chose et vous sentez que ça ne lui plaît pas, et qu'il file un mauvais coton. Eh bien, là, c'est exactement pareil. On est tous comme cela avec Dieu, et on n'a pas toujours envie de lui obéir, et on ne lui obéit pas toujours. Et la conséquence, eh bien, c'est que, comme sur cette image, eh bien, on n'a pas accès au royaume de Dieu. Il y a un fossé infranchissable qui nous en empêche. Et ce matin, Dieu nous dit, repentez-vous, changez d'attitude. Jésus nous dit autre chose aussi, il nous dit cette deuxième parole, fin du verset 15, croyez, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, lui, Jésus, il a pris sur lui, il a pris la sanction que méritaient nos fautes. Il a subi à notre place la punition qui aurait dû être la nôtre. Aucun homme n'arrive à résister au mal. Nous méritons tous la colère de Dieu, mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous aime, il est devenu lui-même un homme, Jésus-Christ, dont on a commencé à voir, entendre parler la semaine dernière, par Marc. Et Jésus-Christ, lui, il a toujours résisté au mal. Jésus, il est le seul homme qui aurait mérité d'entrer dans ce royaume de Dieu. Il ne méritait pas de mourir, mais il s'est offert à notre place. Et comme il n'a jamais commis le moindre mal, eh ben, son sacrifice a une valeur infinie. C'est pour ça que vous avez cette croix qui est dessinée, qui permet en fait d'entrer. Sa croix, le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est comme un chemin qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Le sacrifice de Jésus qui nous ouvre le royaume de Dieu. Un sacrifice qui a une valeur infinie pour nous. Sacrifice qui peut racheter la vie de tous les hommes. Et comme preuve que Dieu a accepté ce sacrifice pour nous tous, eh bien, il a rendu la vie à Jésus après sa mort. Il l'a ressuscité 3 jours après. Et Jésus, il est le premier être humain à entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit « Le temps est accompli », c'est-à-dire « Le moment est arrivé ». Le royaume des dieux est proche. Et effectivement, avec Jésus, avec son sacrifice sur la croix à notre place, le royaume de Dieu est là, il est ouvert, et on peut y entrer. Où que nous en soyons avec Dieu, on a tous besoin de changer d'attitude, on a tous besoin de croire en cette bonne nouvelle. En permanence, Dieu nous appelle à prendre un nouveau départ dans la vie avec lui et à nous engager ou à nous réengager à son service. Et choisir de répondre à cet appel que Dieu nous lance, eh bien, il faut savoir que c'est la décision la plus importante de toute une vie. C'est la seule décision qui a un impact pour l'éternité. Sans Jésus, on est dans nos fautes, perdus à jamais, séparés de Dieu pour toujours. Se repentir et croire en la bonne nouvelle, c'est la seule décision qui donne un sens à notre vie. Alors on pourrait croire que je m'adresse qu'aux non-croyants ou aux jeunes, mais ce n'est pas le cas. Grandir dans la foi grandir dans la repentance, c'est un travail de toute la vie. On lutte tous avec la foi et la repentance. Je voudrais vous donner quelques exemples. Est-ce que tu doutes de l'existence de Dieu ? Est-ce que ça t'arrive de douter de l'existence de Dieu ? Est-ce que ça t'arrive de douter que Dieu t'aime ? Est-ce que tu doutes parfois que Jésus t'a sauvé ? Est-ce que tu doutes qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix ? Est-ce que tu doutes que Jésus puisse régler le problème qui te préoccupe en ce moment ? Est-ce que tu doutes que Jésus a un plan pour toi ? Est-ce que tu doutes que Jésus veuille t'utiliser ? Peut-être parce que tu te sens nul dans la vie ? Est-ce que tu doutes que Jésus puisse t'utiliser tel que tu es ? Des problèmes de doute, on en a tous. Et Jésus, il nous encourage ici, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, croyez en la bonne nouvelle. Elle est pour vous, pour chacun d'entre vous. Elle est pour moi, elle est pour toi. Ça, c'est pour nos problèmes de foi. Mais on a aussi des problèmes de repentance. Quelles sont les idoles dans ta vie ? Quelles sont les idoles qui volent la première place qui est réservée à Dieu ? En voiture, lorsqu'on est sur une mauvaise voie et qu'on avance dans la mauvaise direction, je ne sais pas si vous avez entendu déjà votre GPS dire « faites demi-tour ». Oui, ça vous est déjà arrivé ? Moi aussi. Et parfois, ce n'est pas possible de faire demi-tour au moment même où le GPS le demande, parce que parfois, il y a des plots en plastique qui nous empêchent de faire demi-tour. Parfois, il y a un terre-plein central avec une rambarde de sécurité. Ça, c'est les idoles qui sont coriaces et qui ne veulent pas qu'on fasse demi-tour, les idoles. Et nous aussi on s'accroche. Nous aussi, parfois, on ne voudrait pas faire demi-tour. Parce qu'en renonçant à certaines de nos idoles, on a peur de perdre quelque chose. Mais c'est le contraire, en fait. Jésus, il nous libère de toutes ces idoles. Ces idoles qui, de toute façon, ne nous rendent pas heureux au final. Alors Jésus nous demande de faire demi-tour, il nous demande de revenir à lui, il nous demande, s'il le faut, de défoncer le terre-plein central. Faites pas ça en rentrant chez vous tout à l'heure. Hein. En tout cas, Jésus nous reprend fermement ce matin, et il nous dit, repentez-vous, changez d'attitude, c'est valable à tout âge de la vie chrétienne. Alors j'entends aussi parfois, quand on demande à des personnes qui sont assez expérimentées dans la foi chrétienne, on leur demande parfois de venir témoigner, et puis ils sont parfois un peu gênés en disant « Non, mais mon témoignage, ça fait longtemps que je suis devenu chrétien, et ce n'est pas très intéressant pour les jeunes. » Je dirais « Mais au contraire, pas de problème. Si ça fait longtemps que vous êtes devenu chrétien et que votre témoignage n'est peut-être plus pertinent parce que c'était à une autre époque et qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes problèmes, mais racontez-nous. » Comment vous avez réussi à continuer et à progresser dans la vie chrétienne? Racontez-nous comment, en vous accrochant à Dieu, comment vous avez continué à vous repentir de vos idoles? Comment vous avez continué à progresser dans la foi, à tout âge? Racontez-nous votre expérience avec l'argent. Racontez-nous votre expérience avec la gloire, avec les loisirs, avec la sexualité, pour qu'on puisse tenir, nous, les jeunes, dans notre foi. Racontez-nous comment Dieu vous a repris. Comment Dieu vous a encouragé dans tous les domaines de votre existence. Et racontez-nous comment vous vous êtes rendu compte avec le temps que c'était mille fois mieux de vivre avec Jésus et de vivre avec Dieu qu'avec vos idoles. Les jeunes chrétiens, ils ont besoin de savoir que ça vaut le coup de résister à la drogue et à l'alcool. Les jeunes chrétiens, ils veulent savoir que ça vaut le coup de jeter leur magazine porno. Les jeunes chrétiens, ils ont besoin que ça vaut le coup de renoncer à une carrière si cette carrière, elle vous mène droit dans le mur. Les jeunes, ils ont besoin de savoir que la gloire, ça ne remplit pas du tout le vide qui est au fond de notre cœur. On a tous besoin de vos encouragements, les anciens. C'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre à quel point c'est exaltant de vivre avec Jésus, à quel point ça bouleverse la vie au plus profond de notre existence. Alors je voudrais vous donner un exemple un peu plus personnel. Quand j'étais jeune chrétien, je luttais avec le perfectionnisme dans ma vie. Par exemple, il m'arrivait régulièrement de douter que Dieu m'aimait réellement. Je doutais que Dieu m'aimait parce que j'arrivais pas à être parfait. Je voulais être parfait et j'y arrivais pas. Et pour le coup, je me demandais, mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce qu'il t'a vraiment sauvé? Et à chaque fois que je péchais, je m'enfonçais dans une sorte de dépression. Non. Dieu ne peut pas m'aimer comme je suis. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez parfait. Et puis quand j'allais à l'église, c'était encore pire parce que je croisais que des gens qui étaient géniaux, que des gens qui apparemment étaient parfaits dans leur vie. Et par comparaison, je me sentais vraiment nul. Et j'avais l'impression que Dieu ne m'aimait pas et que je n'étais pas chrétien, que je n'avais pas été touché par lui, que je n'avais pas été transformé de l'intérieur par son esprit. Et puis, ces doutes sont revenus à la charge de façon très puissante quand notre fils aîné est né justement il y a 12 ans. Pourquoi ? Parce que ça ne se passait pas du tout comme on l'avait imaginé à la maison. Et j'arrivais pas à être le père que j'aurais voulu être. Tout semblait m'échapper, vraiment, dans l'éducation. J'arrivais à rien. Je comprenais pas ses réactions. Il pleurait sans arrêt. Quand on essayait de le consoler, ça n'allait pas. Quand il est né, Rémi, dans les premiers mois, les premières années, il mettait vraiment mes nerfs à rude épreuve. Avec lui, j'ai redécouvert que j'étais un grand colérique, que j'étais rempli d'amertume et de frustration, et que je pouvais être aussi très triste quand les choses n'allaient pas comme je le voulais. Et ça, je l'ai vraiment redécouvert. J'étais pas parfait. J'étais pas le père parfait, j'étais pas le père que j'aurais voulu être. Et puis, j'ai rencontré un chrétien qui s'appelle toujours Gaël, père beaucoup plus expérimenté que moi, il a 4 enfants. Et je me souviens de la prière de Gaël pour moi, quand je lui avais témoigné de mes difficultés. Il avait prié pour que Dieu pallie à tous mes manquements. Et il avait prié aussi pour que Rémi ait de la résilience, qu'il ne soit pas impacté par ce que je faisais de mal dans ma vie de père. Et ça avait vraiment changé quelque chose pour moi, d'entendre Gaël prier comme cela pour moi. Et puis, il m'avait montré une photo, Gaël, de ses quatre enfants, avec lui et sa femme, avec ses quatre enfants. Et puis, ils étaient tout calmes sur la photo, alors j'étais à nouveau désespéré par rapport à moi, ce que je vivais à la maison. Et puis, il m'avait dit, mais tu sais, on a dû les payer, nos enfants, pour qu'ils soient calmes comme ça sur la photo. Et là, fou, il y a quelque chose qui s'est effondré en moi, il y a un lâcher-prise qui a eu lieu à ce moment-là, pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai pu rencontrer sa femme et ses enfants, je me suis rendu compte à quel point qu'en fait, ses enfants, ils étaient pires que le mien, quoi. Grâce à mon copain Gaël, j'ai lâché quelque chose de l'ordre de la repentance. J'ai lâché quelque chose dans ma vie avec le Seigneur. J'ai lâché ma volonté de tout vouloir contrôler. Et j'ai lâché ma volonté de croire que c'était moi qui allais pouvoir réussir l'éducation de mon fils et que mon fils allait pouvoir devenir quelqu'un à cause de moi ou grâce à moi, grâce à l'éducation que j'allais lui donner. Ça, j'ai dû le lâcher à ce moment-là. C'est vrai que je comptais uniquement sur mes propres forces et c'est de l'orgueil. J'étais orgueilleux en pensant que la vie de Rémi dépendait uniquement de l'éducation que j'allais lui transmettre. Je pense que j'avais lu un très mauvais ouvrage qui disait que tout se jouait avant 6 ans et ça, c'est vraiment, vraiment la plus belle bêtise que j'ai jamais lue. J'ai aussi appris quelque chose de l'ordre de la foi avec cette expérience avec Gaël. J'ai appris à aimer mes enfants tels qu'ils sont et pas tels que je les aurais voulu. J'ai appris à les aimer avec leurs défauts et avec leurs qualités. Et là où ça a changé quelque chose dans ma foi, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, c'est que ça a changé quelque chose pour moi aussi. J'ai compris à ce moment-là que Dieu m'aimait aussi de la même façon, malgré mes défauts. Non pas que Dieu aime mes fautes, mes péchés, non. Il en a horreur, mais moi, il m'aime quand même. De la même façon que j'étais appelé à aimer Rémi, malgré ses défauts de fils. Donc vous voyez comment, par l'intermédiaire de cette rencontre avec mon ami Gaël et ce qu'il a pu partager avec moi, j'ai progressé à la fois dans ma foi et dans ma repentance vis-à-vis de Dieu. J'ai fait un grand pas de foi, j'ai compris que Dieu m'aimait comme j'aimais mon fils, et j'ai déposé dans la repentance un certain nombre de freins qui me bloquaient dans mon existence. En tout cas, moi, j'ai progressé ce jour-là. Alors, ça nous ramène où ? Est-ce qu'on a progressé, nous, par rapport au royaume de Dieu ? Oui, je dirais qu'on commence à percevoir que le royaume de Dieu, ce n'est pas exactement comme les Juifs attendaient à l'époque. Ce n'est pas un règne triomphant, eux, ils attendaient un libérateur qui allait prendre les armes pour botter les Romains à la porte de leur pays. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Jésus n'était pas ce roi-là, ce roi libérateur. Il n'est pas venu libérer des Romains, il est venu libérer du mal qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et comment il s'y prend ? Eh bien, repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Dieu règne, effectivement, dans le cœur de toutes les personnes qui se repentent et qui croient en la bonne nouvelle. Donc vous voyez que ce royaume de Dieu, il existe bien, mais ce n'est pas un royaume qui est directement accessible à la vue comme cela. Dieu règne dans les cœurs. Ça, c'était pour qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Maintenant, on va aussi se pencher un peu brièvement sur... Qui peut entrer dans le royaume de Dieu ? Alors ça, on a déjà en partie répondu à la question. On a vu ensemble que ceux qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui changent d'attitude et qui croient en la bonne nouvelle, qui placent leur confiance en Jésus, qui est mort à leur place sur la croix. Mais notre texte aujourd'hui, il donne des précisions qui nous concernent. On a lu tout à l'heure 4 hommes. On a entendu parler de 4 hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu et leur vie a été changée. Ces 4 hommes, c'est Simon et André, 2 frères, et Jacques et Jean, 2 autres frères, les fils de Zébédée. Ce jour-là, quand Dieu les a appelés, ils étaient en train de pêcher, ils étaient dans leur bateau, et ils ont répondu à l'appel de Jésus de façon assez extraordinaire. Ils sont descendus de leur bateau, ils ont laissé en plan leur filet, ils ont laissé en plan leur père qui pêchait dans la barque, en tout cas pour les fils de Zébédée, et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et donc c'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que nous aussi, il faut faire comme Simon et André et Jacques et Jean? Est-ce qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus? C'est la question qu'on se pose forcément en lisant cet appel frappant de ces quatre hommes. Est-ce qu'on doit arrêter notre métier? Est-ce qu'on doit abandonner notre famille pour nous mettre au service de Dieu? Heureusement, il y a Pierre. Il y a Pierre qui nous donne un certain nombre de réponses. Pierre n'a pas abandonné sa famille. Dans la suite de l'évangile de Marc, dans très peu de temps, on va voir au contraire que sa maison est devenue comme une sorte de quartier général pour toute la troupe de disciples qui gravitent autour de Jésus. Donc il n'a pas abandonné sa famille, il n'a pas abandonné sa maison, Pierre. On apprend aussi par l'intermédiaire de la lettre de Paul aux Corinthiens qu'il n'a pas abandonné sa femme qui l'accompagne dans ses voyages missionnaires. 1 Corinthiens 9, verset 5. Pierre n'a pas abandonné sa famille. Et son métier aussi, on va vite se rendre compte qu'il n'a pas abandonné son métier. On va voir Pierre à plusieurs reprises dans son bateau, en train de pêcher, pour des raisons X ou Y. Pierre, il n'a pas abandonné sa famille, il n'a pas abandonné son métier. Par contre, ce qu'on constate, c'est que, en fait, l'appel de Jésus a plutôt réorienté la vie de Pierre, réorienté le but de la vie de Pierre. Pierre a mis sa famille et il a mis son métier au service de Jésus. Il a engagé sa vie entière au service de Jésus. Et pour nous aujourd'hui, eh bien, répondre à l'appel de Jésus, ça consiste à changer d'attitude et à croire à la bonne nouvelle. Ça consiste à mener chaque jour une vie qui plaît à Dieu, à mener une vie de famille, à mener une vie de professionnelle qui plaît à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu pour le remercier de nous avoir sauvés. Et ça réoriente toute notre vie. C'est notre manière de vivre qui change. Il faut aller un peu plus loin dans notre réflexion. Simon, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs de poissons. Et on l'a entendu tout à l'heure quand Sylvie l'a lu. Jésus leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Expression peu banale. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ça, eh bien, c'est aussi la mission de l'Église. De prendre la relève des 12 disciples qui ont pêché des hommes. C'est la mission de l'Église. Pêcher des hommes, c'est les sauver du jugement à venir en leur annonçant la bonne nouvelle et en les exhortant à se tourner vers Dieu. Et c'est naturel ça, parce que quand on découvre l'amour de Jésus pour soi-même, eh bien on a envie de le partager. Quand on comprend qu'on a été pardonné de toutes nos fautes, on a envie que tous nos amis, toute notre famille soient pardonnés de ces fautes également. Et on ne peut qu'être joyeux et reconnaissant. On ne peut avoir qu'envie que de témoigner, de partager cette bonne nouvelle autour de nous, avec les gens qu'on aime. Et on l'a vu ensemble, c'est une véritable bonne nouvelle. Et elle tient en un dessin, le dessin qu'on a vu tout à l'heure, l'image avec le fossé, et puis la croix qui permet de traverser et d'entrer dans le royaume de Dieu. Elle tient en une phrase de Jésus, « Repentez-vous, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Alors cette dame sur le quai du RER B, elle prononçait ces mêmes paroles de Jésus au final. Mais c'est vrai que sans les explications qui vont avec, c'était difficile à comprendre et peut-être pas approprié pour les gens de notre temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il nous faut prendre exemple sur son courage à cette dame. On a tous des amis. On les aime et on voudrait tous qu'ils soient sauvés, eux aussi. Mais, alors on n'a pas tous la parole facile, on n'est pas tous des théologiens ou des évangélistes. En revanche, on a tous une histoire à raconter. C'est l'histoire de notre rencontre personnelle avec Jésus. C'est l'histoire de nos hauts, mais aussi l'histoire de nos bas avec Dieu. C'est l'histoire de nos doutes, de nos chutes, de nos échecs, mais c'est aussi l'histoire de l'amour de Dieu qui nous relève à chaque fois. C'est l'histoire de la certitude que Dieu existe et qu'il agit encore aujourd'hui dans nos cœurs. C'est l'histoire de l'amour de Dieu. C'est l'histoire de nos progrès dans la foi, c'est l'histoire de nos progrès dans la repentance aussi. Ça, toutes ces histoires-là, je vous garantis que vos amis, ils vont aimer. Ils vont peut-être pas aimer si vous vous lancez dans un trip sur le Saint-Esprit ou sur la Trinité, des choses peut-être compliquées pour eux, mais si vous leur expliquez simplement ce que Dieu a fait dans votre vie et comment votre vie a été changée, je suis sûr que vos amis vont aimer. Vos joies et vos peines, on peut les partager. Et puis, si vous voulez vous former, aller plus loin, l'Église propose plein de formations. Je tiens à votre disposition aussi un certain nombre d'outils de témoignage. Vous pouvez venir m'en parler si vous avez des besoins particuliers et je vous dirai si j'ai des choses qui sont adaptées à votre besoin. Le top du top, bien sûr, c'est de pouvoir lire la Bible avec nos amis, avec notre famille. Alors là aussi, si vous le souhaitez, j'ai des canevas de lecture de la Bible. On en a un, par exemple, où je peux vous proposer l'Évangile de Marc à lire, à partager, tronçonner en petite étude biblique assez simple, avec un livret. Si vous souhaitez faire ce pas et lire la Bible avec vos amis, venez me voir, j'ai aussi plein de trucs à vous donner. Quelques mots de conclusion. Alors on a vu que le royaume de Dieu était un royaume bien particulier. On a touché du doigt que c'était une sorte de société nouvelle en cours de construction. On a vu que c'était Jésus qui l'avait instauré, ce royaume de Dieu. On a vu qu'il était même le premier à y entrer, qu'il était le seul légitime à pouvoir y entrer, de par sa pureté. Et on a vu que sa mort à notre place sur la croix ouvrait aussi les portes du royaume de Dieu pour nous. On a vu que pour entrer dans ce royaume, c'était assez simple, ou pas, faire demi-tour, changer d'attitude et croire à la mort de Jésus à notre place sur la croix. Et on a vu aussi que dans la vie de tous les jours, ça consistait à réorienter notre vie entière pour mener une vie qui plaît à Dieu, rechercher la gloire de Dieu en toute chose. Vous le voyez peut-être pas donc, mais Dieu règne et viendra un temps où il jugera toute l'humanité, chacun selon ses actions. Et alors à ce moment-là, le royaume de Dieu sera pleinement accompli. Heureux l'homme, heureux la femme qui règle sa relation avec Dieu pendant qu'il en est encore temps. Souvenez-vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et si vous n'avez pas conscience de l'importance des paroles de Jésus, sachez que Marc estime que ce sont les paroles les plus importantes que Jésus ait jamais dites. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et comment le savons-nous ? La preuve, c'est simple, c'est que dans les semaines à venir, on va continuer à lire l'évangile de Marc. La semaine prochaine, par exemple, on va lire la suite directe. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Point. Quel est son enseignement ? On ne le saura pas. Pourquoi ? Parce que Marc estime qu'il nous a dit l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Et l'essentiel, je crois que vous avez compris, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un peu plus loin après encore dans l'évangile de Marc, toujours dans le même chapitre 1, vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ?» Jésus répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée. Mais nous ne saurons pas ce que Jésus prêchait. Nous ne le saurons pas. Encore une fois, pourquoi ? Parce que Marc nous a déjà dit le contenu de la prédication de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous n'avons besoin de savoir rien de plus pour notre bonheur éternel. Amen. Et je voudrais prier. Notre Dieu, notre Père. Ô combien les mots de ta parole peuvent nous sembler durs. En particulier quand ton Fils unique Jésus-Christ, venu pour donner sa vie pour nous, nous dit de changer d'attitude et de croire en la bonne nouvelle. Tu vois tous nos problèmes de foi et tous nos problèmes de repentance. Notre prière ce matin, c'est que tu puisses continuer à nous accompagner sur ce chemin que nous avons commencé d'emprunter. Aide-nous à faire des pas supplémentaires chaque jour pour mener une vie qui t'honore. Merci pour l'exemple de Pierre, de Simon, d'André, de Jacques et de Jean qui ont emprunté ce chemin avant nous. Merci parce qu'on a pu constater que cela consistait en une réorientation de leur vie entière. Et c'est cette réorientation que nous voulons aussi pour notre vie. Donne-nous de vivre pour toi chaque jour. Donne-nous de rechercher dans ta parole ce qui te plaît, ce qui t'honore. Et aide-nous à vivre comme tel. Donne-nous aussi de pouvoir être les témoins auprès de celles et ceux auprès desquels tu nous as placés. Père, nous ne comptons pas sur nos forces, elles sont bien faibles, mais nous comptons sur les tiennes, aussi bien pour progresser dans la foi et dans la repentance que pour toucher le cœur de nos amis, de notre famille. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.